Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pierre Hoffmann.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat.
Eh bien écoutez, un grand merci pour votre invitation.
Racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat.
Alors j'ai une lignée d'avocats. J'ai un père et une sœur qui sont avocats. Et alors vous allez me dire que c'est la voie naturelle d'avoir... Mais paradoxalement, ça ne m'a toujours été pour moi un énorme fardeau. Raison pour laquelle j'ai suivi cette voie tout en essayant de faire mon propre chemin. Et peut-être naturellement, je me suis inscrit en faculté de droit après mon bac, en suivant cette voie, mais en me disant, je ne vais pas y aller parce que ce serait un échec personnel. Après, la vie a évolué.
Vous a fait changer d'avis, justement? Qu'est-ce que la vie a fait pour que vous changiez d'avis?
Pour
finalement devenir avocat. Vous dites que vous êtes rentré en fac de droit un peu par atavisme familial et que vous vous disiez mais je vais tout faire pour ne pas y aller et puis finalement vous y allez. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la vie pour que finalement vous y alliez?
Je trouvais le métier magnifique et j'avais à l'époque une attirance pour le pénal. Et d'ailleurs on en reparlera parce que quelqu'un qui a changé mon destin personnel, qui était mon premier patron, Jean-Louis Pelletier, et donc j'ai été le collaborateur pendant 2 ans. Et c'est vrai que jeune avocat, en fait, j'étais partagé entre, c'était à l'époque de l'avènement du droit des affaires, et entre se dire je veux être avocat d'affaires et je veux voir comment ça se passe dans les grands cabinets. Et paradoxalement, j'avais cette envie de pénal. Et d'ailleurs, ça, si vous me permettez, c'était à peu près ce qui m'est arrivé dans ma vie, puisque j'étais en stage chez Freshfields, en département de propriété intellectuelle. Et ça a été vraiment le cours de mon destin. Alors, c'était en parallèle, je suis obligé de parler de ma femme parce que ça fait 23 ans que nous vivons ensemble, qui est avocate également. Et on a vécu ces moments où je voulais voir ce qu'était un grand cabinet. Et j'étais en stage en propriété intellectuelle chez Freshfields. Pendant ce stage, je faisais des audits de marque. J'ai pas eu une passion première, et je me suis rendu compte aussi que dans ma matière, c'était plutôt une activité support que par rapport aux matières reines de corporate. Et il s'est passé quelque chose de à peu près magique, c'est que Jean-Louis Pelletier m'a reçu par politesse républicaine, je dirais, en février ou mars 2020, février 2003. Qui m'a reçu avec son air un peu bougon et ça devait durer 2 minutes en me disant j'ai pas besoin, je m'a dit je vous reçois, j'ai pas besoin de vous, expliquez-moi. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu un bras de fer entre lui et moi, et cet entretien qui devait durer 2 minutes a duré 2 heures. Et quand il m'a raccompagné sur la porte d'entrée 21 quai de Montebello, je n'oublierai jamais, il m'a serré la main et il m'a dit « à lundi ». Et là, je descends les escaliers, j'appelle ma femme, je rentre chez Freshfields et je me dis « je comprends rien, je crois qu'il m'a proposé une collaboration ». Et donc, j'étais dans le cabinet d'affaires, j'étais qu'en fin de stage, mais et c'était un choix. J'ai dit à ma femme « écoute, j'en meurs d'envie, mais est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée ?» Et j'ai foncé et j'ai commencé. Donc, il y avait un peu le caractère un peu imagé, au revoir président, comme dans la publicité. Et j'ai commencé à faire du pénal chez Jean-Louis Pelletier.
Vous dites qu'il vous a reçu par... vous avez utilisé une expression...
politesse républicaine.
Politesse républicaine, mais j'imagine qu'un avocat comme Jean-Louis Pelletier ne reçoit pas n'importe qui par politesse républicaine. Qu'est-ce qui fait qu'il vous a reçu?
Non, j'ai eu la chance, la chance que quelqu'un, qu'on me le présente et qui était, il se cherche un peu, est-ce que tu ne peux pas le recevoir pour avoir une autre vision du métier, parce que j'étais pas totalement sûr de ce que je voulais. Et à l'heure où tous mes copains de fac voulaient rentrer dans les grands cabinets d'affaires, qui était la mode, hein, on est dans les années 2000, et c'était à peu près l'idée. Voilà. Parce que c'est vrai que on avait tendance à suivre un chemin qui est de dire, bon, bah, ça va se passer ainsi. Et c'est la magie de la vie, ça se passe jamais forcément comme on en a envie. Et j'ai passé deux années merveilleuses. Et je tiens à dire, en plus, à l'heure où on perd nos aînés, puisqu'il est décédé il y a maintenant 6 mois, je le remercie parce qu'il m'a ouvert une porte. Et sans cette chance, jamais j'aurais pu faire peut-être ce parcours.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce bras de fer?
Vous parlez du bras de fer avec Jean-Louis Pelletier?
Ben oui.
Ben, si vous voulez, imaginez-vous que vous rencontrez l'avocat, alors on dit pas Mesrine, on dit de Mérine, et que vous avez 24-25 ans et vous regardez un homme qui est vraiment très imposant, donc vous êtes le petit garçon qui rentre dans la salle, et ne me demandez pas pourquoi. D'abord, j'ai aimé le personnage bourru, et je suis bien élevé, j'ai l'arrêt sur le côté, je suis poli, mais je sais pas ce qu'il m'a dit, mais rentré dedans et je lui ai répondu. Et ça a dû lui plaire. Et il y a eu donc une espèce de bras de fer qui pour moi est un échange d'avocats. Mais ça, sur le moment, je pouvais pas m'en rendre compte. Et d'ailleurs, je me suis même demandé à un moment si je n'étais pas devenu impertinent à lui répondre en tentant, hein, je dis bien, de lui tenir tête. Et il y a eu un vrai échange, et j'ai toujours une nostalgie de cette période.
Et donc là, ça a été une incartade depuis la propriété intellectuelle vers le pénal?
Ça a été tout à fait.
Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ces 2 ans? Déjà, pourquoi est-ce que vous quittez le cabinet et qu'est-ce qui se passe?
En fait, j'ai passé 2 années merveilleuses. Je me sentais libre, tellement libre, tellement libre. C'était tellement grisant de se retrouver... Parfois, on avait le sentiment d'être un joueur de casino. On sortait quelqu'un de prison et il avait une phrase qui était magnifique, qui répétait à chaque fois, et je la répétais aussi à chaque fois, c'est que quand on voyait quelqu'un en prison à plusieurs reprises et qu'un jour on le revoyait dans le cabinet, la première chose qu'on lui disait, et je faisais la même chose, j'aime mieux vous voir ici. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après 2 ans, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'être, entre guillemets, prisonnier de ce monde-là. Parce que je me rendais compte que je ne pouvais plus m'en sortir. Et qu'il y avait une différence entre vouloir être urgentiste, pénaliste, et vouloir faire ça toute sa vie. Et plus j'avançais, plus j'avais le sentiment de perdre, comment dirais-je, mes acquis du passé, ce qui n'était pas grave en soi. Je commençais à être désigné par des clients qui m'envoyaient de prison que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et donc, je commençais à progresser et à faire mon essor. Et je me suis rendu compte, tu vas devenir un avocat pénaliste. Ce qui, à un moment, je me suis peut-être pas vu vieillir ainsi. Et ma femme, qui a une part très importante dans ma vie, me voyait parfois taciturne. Parce que tu as des journées où tu peux être retrouvé dans la maison d'arrêt, le soir, tu vas te retrouver à une fête avec des amis. Ces changements de rythme et courir tout le temps à travers la France, ça m'amusait peut-être un temps, mais est-ce que je voulais en faire ma vie? J'en étais pas convaincu. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, c'était effectivement les premières assises, ok, je l'ai fait, mais est-ce que j'avais envie de vieillir ainsi et de me retrouver le dimanche soir à Charleville-Mézières et tout ça, dans ma chambre d'hôtel, j'étais pas convaincu. Alors, en sachant que c'était un pénal assez dur, assez lourd. Et puis, quelque chose d'assez triste, finalement, c'était de se dire, je peux me tromper, hein, mais dans une matière plus traditionnelle, tu peux, entre guillemets, vieillir comme du bon vin, comme un avocat. Alors là, c'est très dur. Et je voyais peut-être la fin de carrière de Jean-Louis Pelletier, courir tout le temps, qu'il y avait peut-être une certaine forme de lassitude. Et j'ai préféré, à un moment, quitter ce monde-là. Voilà. Et j'avais le sentiment, mais je peux me tromper, que finalement, alors je pense la même chose aujourd'hui dans la matière qui est la mienne, mais qu'on était un peu prisonnier de ses clients. C'est-à-dire qu'on avait la même vie qu'eux, sauf qu'on était libre et qu'on leur courait après à chaque fois et qu'on pouvait pas s'en sortir. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à la même chose avec mes clients qui m'envoient des assignations page par page via WhatsApp. C'est la même chose, mais j'avais le sentiment que je pourrais pas partir. Voilà. Et c'était une décision personnelle et avec l'accord de ma femme également.
C'est une jolie question, ça. Est-ce que je me vois vieillir ainsi ? De se poser la question de comment on se voit vieillir, quoi. Je trouve, en termes de projection et de prise de décision. Donc voilà, je souligne. Et donc, vous quittez son cabinet au bout de 2 ans. Comment est-ce qu'il l'a pris ?
Très, très mal, sur le moment. Mais on se disputait, on se taquinait. Enfin, quand je dis très, très mal, un crime de lèse-majesté aurait été de le quitter pour un autre pénaliste. Et j'avais une porte de sortie, et on va y venir, c'était de dire... Écoutez, je quitte un père pour un autre, et donc je vais rejoindre un cabinet familial. Ce qu'il savait pas, c'est que on va peut-être y revenir, mon arrivée dans ce cabinet, c'était pas mon choix premier, et je voyais ça comme un échec personnel. Mais je lui ai dit, je quitte, parce qu'il faut toujours des mots de pénalité, je quitte un père pour un autre, et il l'a bien pris. Mais c'est surtout que je quittais la matière. Et donc on s'entendait très bien, et ça s'est très très bien passé, mais ça ne se serait jamais passé, si vous voulez, si j'avais été chez son voisin de bureau. Mmh. Je quittais, c'était un aller simple, voilà, mais parce que nous sommes des affectifs, et donc c'est ça aussi qui est très important, c'est l'humain. Rien ne remplacera l'humain, ou parfois il peut y avoir une envie ou un coup de quelque chose qui se passe. Et il y a eu ce moment de magie, et je savais qu'à un moment il fallait que ça s'arrête. Je ne me demandais pas pourquoi. Mais ça m'a permis aussi à une période de voir ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et que je voulais finalement pas être dans un gros cabinet, surtout dans ma matière d'origine, parce que qui était une activité support, ce que je vous avais dit. Et le pénal, je voulais voir ce qu'est un vrai avocat à l'ancienne. Et là, on est en 2003, 2004, 2005. Et donc, alors, arrive la question qui est finalement, cette arrivée familialement dans ce cabinet. Et je vous dis les choses très clairement. J'ai dit à ma femme, écoute, je me donne 6 mois, mais je vais pas tenir. Et j'avais, parce que pour moi, c'était vraiment un sentiment d'échec.
Donc, c'était le cabinet de votre père?
C'était le cabinet de mon père qui travaillait avec ma sœur. Et je vous dis les choses très clairement. Pour moi, c'était un échec absolu parce qu'il y avait le père, le fils. Et donc, c'était un aveu d'échec d'étant de nature très indépendante.
Votre père, il faisait quoi comme matière ?
La propriété intellectuelle. Mais ce qui a eu une chance inouïe, c'est que grâce au pénal, j'ai eu des clients très vite.
Mais de pénal ou de propriété intellectuelle ?
Bah justement, c'était la magie de la chose. J'ai pu lier le pénal de la contrefaçon parce que j'ai eu beaucoup de clients dans les années 2000 qui ont eu des problèmes avec les douanes. Et beaucoup de la communauté d'Aubervilliers, et j'ai eu un essor assez rapidement au tout début de ma carrière là-dessus. Et donc, je rentrais dossier sur dossier. Donc, j'étais techniquement présent, mais assez libre par rapport aux clients, ce qui me permettait aussi d'apporter, comment dirais-je, des dossiers pour le cabinet, mais j'étais pas dépendant. Et ce qui fait qu'à tout moment, je me dis, s'il y a un souci, à l'époque, il y avait ma femme qui était avocate. J'ai dit, est-ce qu'on se met ensemble, on fait quelque chose? Et ça ne s'est pas fait parce que j'ai eu l'indépendance et que on est dans les années 6, 7, 8 et il y a eu un essor personnel. Voilà.
Vous dites que quand vous avez quitté Maître Pelletier, il y avait un sentiment de ne pas avoir le choix d'aller chez votre père. Vous auriez pu chercher une collaboration ailleurs. Pourquoi cette sensation de ne pas avoir le choix?
Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que je me suis dit, il faut aussi comprendre le parcours. Quand vous faites des études assez classiques et vous êtes dans un cabinet anglo-saxon et que vous passez au pénal, revenir dans les cabinets dits plus traditionnels et leur dire je reviens, vous êtes un peu un extraterrestre. Or, je trouve qu'au contraire, c'est un enrichissement. Mais je le vois ainsi. Et donc, c'était pour moi quelque chose de temporaire et une période de tampon entre deux. Voilà comment je l'ai vu, parce que c'était une période aussi où je voulais aussi que ça s'arrête au pénal, parce que ça prenait trop d'ampleur, et c'est là aussi où j'ai mon regret éternel qui était le concours de la conférence que j'ai passé une fois comme ça, un peu les mains dans les poches. Mais je regrette de ne pas avoir persévéré dans cette voie. Mais comme j'ai coupé justement ce monde-là, je voulais une coupure définitive.
Donc vous voyez le passage par le cabinet de votre père comme un sas de transition entre le pénal pur, dur, avec de la criminalité professionnelle, etc., et un retour vers la propriété intellectuelle, peut-être dans des cabinets plus établis. Et finalement, au sein de ce cabinet, en tout cas, alors que vous étiez collaborateur dans ce cabinet de votre père, vous avez cette activité qui, au croisement des deux, se crée. C'est ça ?
Et c'est exactement ça, en sachant qu'en mai, je savais au fond de moi que je n'étais pas un vrai pénaliste, puisque je passais de l'autre côté. Et que, alors, parfois, parce que je bataillais parfois contre les douanes, et aujourd'hui, alors là, je suis parfois aux côtés des douanes, mais c'était quelque chose, une période passionnante. Et effectivement, vous avez raison, cette espèce de tampon entre les deux.
Et donc, qu'est-ce que vous en faites de cette activité qui se développe ? Vous avez parlé d'un sas, et finalement, est-ce qu'il y a eu un sas ou est-ce qu'il y a juste eu... vous qui développez votre cabinet, quoi.
Eh ben, en fait, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, comme je développais, comme vous l'avez parfaitement dit, donc j'étais parfaitement libre et donc pas sous dépendance. Et ce qui fait que il y a eu une alchimie parfaite, parce que je travaille aujourd'hui avec ma sœur et associée qui a 13 ans de plus que moi. Et ça a permis, si vous voulez, elle comme moi, de développer une autre activité. Et à l'époque, il y avait beaucoup de pénal de la contrefaçon, et on n'était pas beaucoup à pratiquer cette matière. Donc, c'était une période assez passionnante, parce que justement dans ma matière qui était plus académique, aucun ne le faisait, et que j'avais pas peur d'aller devant la 31e correctionnelle ou discuter avec l'administration des douanes et transiger aussi, parce qu'on transigeait beaucoup de dossiers, et c'était une époque où t'avais le sentiment d'être un dieu vivant parce que le client risquait des amendes douanières de 19 millions d'euros parce que c'était le nombre d'articles contrefaisants fois le prix du neuf. Et toi, tu disais, l'administration des douanes, on peut transiger et t'arrivais à transiger et tu te sentais utile. Donc c'est une période pour moi qui devait être une période transitoire et entre deux et qui a été une période bénie de développement.
Vous en parlez de ce contentieux de la contrefaçon avec le côté pénal comme presque comme quelque chose de passé et de révolu. C'est quelque chose qui s'est épuisé, c'est juste votre activité qui a évolué, vous en faites plus, mais c'est encore quelque chose qui est prégnant en termes de problèmes quoi, et d'affaires. Qu'est-ce qui fait que vous en parlez comme ça presque au passé ?
J'en parle vraiment au passé parce que c'est la matière qui a totalement évolué. Et alors là, maintenant, aujourd'hui, c'est un cabinet de propriété intellectuelle, on fait tout ce qui est marque, brevets, dessins et modèles, mais c'est surtout qu'on a une activité d'IT. Et je m'explique. C'est à l'image de ce qui se passe dans la société avec la digitalisation, pardon, qui fait qu'il y a moins d'intermédiaires. Et donc, aujourd'hui, il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous aviez des saisies, et vous aviez des saisies, donc, pourquoi je vous parle de Aubervilliers? Parce que c'était le ressort de Roissy Charles de Gaulle. Donc, vous pouviez avoir des saisies de 10 000, 15 000, 100 000 pièces. Idem vers Marseille, idem vers Le Havre. Et donc, vous avez des énormes grossistes et des énormes importateurs. Et c'était comme dans des trafics de drogue, vous avez le Pablo Escobar, alors qu'il était évidemment dans son pays, et vous avez le gros importateur. Et donc, et après, vous aviez une chaîne. C'est exactement l'image d'un trafic de drogue. Ce qui faisait que quand vous aviez une saisie de 100 000, 200 000, 300 000 pièces, c'était des gros volumes. Mais ça, quand je dis c'est un temps révolu parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est à l'image de ce qui se passe dans le digital. Vous, aujourd'hui, vous commandez directement sur Instagram vos produits, vous achetez. Donc, il y a plus d'intermédiaires. Ce qui fait que des gros importateurs, je ne dis pas qu'il y en a pas toujours, mais quand vous aviez pour des gros clients, dans un sens comme dans l'autre, des saisies à beaucoup de pièces, aujourd'hui, comme il n'y a plus d'intermédiaires et que le client final se le commande directement sur Instagram, bah, ça fait Chine-Paris ou Turquie-Paris, et donc il n'y a plus d'intermédiaires. Ce qui fait qu'il y a 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de contrefaçons que par le passé, c'est indéniable, mais on n'a plus de prise. Ce qui fait que le marché a complètement évolué Et les douaniers, d'ailleurs, ça peut être vous, personne physique qui revenait d'un vacances, on va vous arrêter parce qu'avec un faux sac, rassurez-vous, c'est un vrai. Qu'est-ce qui va se passer? On va vous le saisir. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, les douaniers? Donc, c'est une pièce, c'est deux pièces, c'est trois pièces. Ce qui fait que les clients on nous disaient, en dessous de 50 pièces ou 100 pièces, vous ne nous contactez même plus. Donc, il n'y avait plus de saisie douanière. Voilà l'image, l'évolution du métier qui a évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'évolution de mon métier, c'est moins drôle parce que c'est plus technique, c'est plus institutionnel, mais on surveille des réseaux sociaux, on coupe des sites internet. Ce qu'on fait, c'est mon métier, mais j'aurais tendance à dire que c'est une phase plus de conseil qu'au contentieux pur, où il y avait peut-être moins le côté magicien de l'énorme saisie, comme le pénaliste pouvait dire un trafic de, j'en sais rien, de 200 tonnes de cocaïne. Or là, maintenant, c'est le client final qui se fait livrer.
Vous aviez un honoraire de résultat sur ce que vous permettiez d'économiser?
J'ai essayé, mais alors là, il faut savoir une chose. D'abord, les clients, c'est beaucoup plus facile, il faut pas le perdre de vue, que c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent quand le client en touche. C'est-à-dire, donc tu prends un honoraire de résultat dans ce sens, c'est plus facile. Mais c'est beaucoup plus difficile pour le client de le faire payer quand, par définition, c'est une somme qui devait. Et puisque vous me parlez de ça, ça me fait penser à une anecdote où j'ai vraiment failli, où je me suis fâché avec un client qui risquait une amende de 5 millions d'euros, qui était une société établie, et qui, le problème, c'est qu'il avait l'argent. Parce que dans ce genre de situation, quand vous avez les douaniers et que vous avez dire, tu sais, tu peux lui demander 10 millions, mais il a 3 euros en banque, tu peux monter, descendre, mais c'était une grosse société avec des actifs. Et donc, si vous voulez, j'ai négocié à 50 000 euros, je crois. Donc, vous imaginez. Donc, j'étais pour moi un dieu vivant. Et c'est pour ça qu'il faut rester humble dans ce métier tout le temps, parce qu'on peut gagner, perdre en même temps. Et que parfois, on a des clients adorables et on a perdu et ils restent. Et vous avez les plus belles victoires et vous avez des preuves d'infidélité, c'est pour ça qu'on le fait aussi pour l'autre, mais on le fait aussi pour soi-même. Ce client dont vous parlez, voilà, avec qui de 5 millions à 50 000 euros, évidemment, j'avais pris des honoraires, mais ça se justifiait. Et à la fin du repas, m'a quand même dit, c'était quand même 50 000 euros, c'est de l'argent. Et je dis pas que c'est pas vrai, mais quand vous avez échappé à la peine capitale et qu'on vous dit ça et que finalement il continue sa vie, j'avais trouvé ça un peu ingrat de sa part. Voilà.
Je vous pose cette question parce que si ça faisait partie de votre mode de facturation d'avoir un honoraire de résultat sur les économies réalisées par rapport aux amendes initialement prévues. Le fait d'avoir ce contentieux qui se tarit et de transitionner vers d'autres types de problématiques, ça peut faire avec peut-être un autre mode de facturation, ça peut faire un gros bouleversement dans le modèle d'affaires, on va dire, économique d'un cabinet, quoi. Donc, c'était par curiosité, mais ne serait-ce qu'en termes de, là, je vous parle en termes de finances d'entreprise, quoi, de faire une transition, ne serait-ce qu'en termes de trésorerie, de choses comme ça, quoi.
Alors, il faut aussi voir, par rapport à ce que vous me dites, que mon point de départ, je n'ai pas fait que ça, mais mon point de départ, je vous parle de ce qui était la porte d'entrée du pénal, ouais, et qui m'a fait évoluer, mais que c'était peut-être 80% de mon activité en arrivant. Et après, ça a été du contentieux de propriété intellectuelle, je dirais classique, ouais, standard, civil, où effectivement, et ça a fini par se tarir, et j'ai failli, et je suis devenu, revenu dans le rang classique de la propriété intellectuelle, de la contrefaçon standard entre, à l'époque, c'était dans le textile, et après, ça a évolué. Donc, non. Mais après, effectivement, il y a eu des années plus difficiles que d'autres. On a tous senti, c'est peut-être pas intéressant, mais la crise de 2007, de 2008, on l'a tous ressenti, peut-être avec un an de retard. Des passages, mais c'est peut-être pas intéressant, du tribunal de commerce au tribunal judiciaire dans la réforme de 2008, qui a fait qu'il y avait peut-être moins d'argent qui circulait. C'est pas
anecdotes, ouais. Et justement, donc, vous évoquez donc cette contrefaçon avec un aspect pénal, ces taris. D'ailleurs, c'est une question. Qu'est-ce qui fait qu'une contrefaçon a un aspect pénal ou pas?
Alors, par définition, on peut choisir le tribunal qu'on veut. Et donc, si on a une contrefaçon, on peut décider, si vous voulez, d'aller sur le terrain pénal. Maintenant, je vous dis les choses très clairement. C'est très aléatoire. Parce que vous ne pouvez le faire en pratique que si c'est un problème de marque. Donc si c'est les marques connues que vous connaissez avec un logo. Mais si c'est votre modèle de robe ou de manteau et que vous voulez aller sur le terrain pénal en correctionnel, je pense que vous allez être bien accueilli. En plus, il faut aussi savoir que les magistrats n'aiment pas tellement que les parties à l'époque saisissent directement par sursitation directe. Donc, ça s'est tari parce que c'était pas nous qui étions à l'initiative de la procédure. Ça partait souvent par une saisie douane ou par une enquête de police. Et nous, on était un peu en la voiture balai derrière partie civile.
Alors que quand ça part d'un client qui a ce problème et qui saisit l'avocat, l'avocat va plutôt conseiller le civil, sauf dans certaines.
Systématiquement, okay. Systématiquement, on va au civil.
C'était une curiosité
ou
juridique.
Ou si on est au pénal. Non, c'est ce qui arrive. J'ai un dossier là en cours. On prévient les douanes. On prévient les douanes en leur expliquant qu'il y a un sujet et que on a la preuve, mais que c'est que on n'a pas la surface. Et puis ils ont des pouvoirs d'investigation que nous n'avons pas.
Mmh. Et donc vous évoquez une part de contrefaçon civile classique qui augmente. Et vous dites qu'aujourd'hui le gros de votre activité c'est plutôt dans l'IT. Comment s'est fait cette évolution de votre pratique? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites de façon proactive pour faire évoluer cette pratique? Est-ce que c'est les hasards de la vie? Enfin voilà, juste.
Je vais vous répondre que c'est une remise en question quotidienne. Et il y avait une évolution du marché dans les années. Il y avait d'abord peut-être beaucoup plus d'acteurs. Sur le marché. Alors là, on est dans le luxe, dans le textile, dans la joaillerie, dans le meuble. Il y avait beaucoup plus d'acteurs. Il fut une période. Après les crises, on s'est rendu compte. Je trouvais que il y avait un côté artisanal qui me plaisait beaucoup parce qu'il y avait un contact humain. Aujourd'hui, après ces crises-là, vous avez peut-être moins d'acteurs, mais plus de grands groupes. Donc c'est mieux, c'est peut-être plus prestigieux. Mais il y a moins de caractère humain, c'est-à-dire que vous ne discutez peut-être plus avec le client personne physique ou dirigeant, mais vous parlez avec le directeur juridique. Et donc, vous êtes dans des groupes, soit très tout en haut, soit tout en bas, et qui fait que vous le voyez bien, d'ailleurs, dans les magasins, c'est toujours à peu près les mêmes zones de magasins avec des règles de conflit d'intérêts. Donc, si vous êtes un grand groupe de luxe, vous pouvez pas être l'autre, Donc, vous êtes, entre guillemets, marqué. C'est pour ça que c'était un peu moins drôle. Mais l'anecdote que je vais vous dire, c'est pour ça que les clients sont parfois très ingrats. J'ai gagné un très beau dossier pour une maison de luxe. On est en... Je sais plus exactement l'année. Donc, ça faisait deux ans ou trois ans de contentieux. C'était très dur. Et j'y ai mis toute mon âme. Je pouvais pas regarder les yeux la cliente si je perdais. Nous gagnons. Et il y a un déjeuner. Et... pendant ce déjeuner, on va dire bravo Hoffman, super, bravo, c'est super. Mais on va te garder pour les grandes occasions, voilà, les mariages, les naissances. Mais pour le quotidien, tu sais, on a des problèmes sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout ça, et ça, tu pourras pas faire. Et donc, j'ai quitté sur la cliente sur cette victoire, et je me suis rendu compte que si je prenais pas ce virage, j'allais gentiment péricliter. Alors, donc aujourd'hui, j'ai fait un partenariat avec une société de surveillance des réseaux sociaux parce que c'est pas mon métier premier. Mais si tu ne suis pas le besoin de ton client et qui va t'appeler en plus en hurlant en te disant oui il y a un faux site, il faut me le couper le robinet. Et le problème par rapport à avant, c'est qu'on était peut-être au début de ma carrière des dieux vivants parce que tu t'avais une saisie. À Aubervilliers ou à Marseille, et donc tu pouvais accaparer quelque chose. Or là, t'as pas d'adversaire. C'est un robinet, le type est à l'étranger. Tout ce que tu peux faire, c'est fermer le robinet. Et donc, la plus-value de l'avocat, elle n'est pas formidable. Et donc, notre boulot, ce que j'ai dit à des clients, c'est qu'à chaque fois, une bisate, il m'envoyait des photos sur Instagram, il fallait l'arrêter. Et on s'est rendu compte que c'était ridicule d'agir ainsi. Parce que je coupais la photo parce que tu m'avais demandé, je t'avais rendu le service que tu voulais, mais en absolu, on savait pas ce qu'on avait fait et qu'il valait peut-être mieux surveiller les réseaux sociaux et identifier où celui qui en vend 500, 5000, 10000 et pas celui qui vend 3, comme ils vont réapparaître, il fallait peut-être essayer d'identifier par pays, par site. Et donc, voilà, nous sommes les avocats de nos clients sur les réseaux sociaux pour les surveiller sur Instagram, sur Etsy et compagnie. Donc, à titre personnel, je vous réponds que c'est moins drôle parce que c'est un côté plus administratif que d'aller batailler au tribunal pour une saisie, mais ça fait partie du métier.
Donc, il y a cette inflexion de repositionnement qui suit une discussion avec un client. Et à partir de là, comment ça se passe? Vous le faites savoir? Voilà. Comment est-ce que vous avez fait pour être perçu comme la personne qui peut aussi accompagner sur ces problématiques avec le digital?
Alors ça, c'est aussi la façon dont on communique et qui est un peu différente. Et je me rappelle quand j'étais au Conseil de l'Ordre, on a voté, je ne sais plus si c'était en 16 ou 17, l'avènement de la télévision, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des spots TV. Et on voit bien que entre le début de notre carrière, quand on donnait à peine sa carte de visite à un client et qu'aujourd'hui, on doit communiquer sur les réseaux sociaux, donc oui, on a communiqué à l'époque, c'était via LinkedIn, je pense, mais on l'a fait savoir ou par des newsletters qu'on a envoyé régulièrement.
Mais déjà en 2015, 16, parce que LinkedIn, c'est...
Là, sur le virage digital, peut-être 14-15. J'ai plus les dates exactement, mais on a très vite senti que... En fait, il y avait beaucoup de boîtes qui fermaient, qui quittaient un monde et beaucoup de mes amis qui commençaient à monter des startups et les besoins n'étaient pas du tout les mêmes. Et donc, il y avait une lente agonie d'un monde et on s'est rendu compte qu'il y avait un événement un peu différent. Voilà.
Vous avez eu l'impression que cette transition s'est faite facilement ou vous avez eu l'impression que ça a été un peu dur, le fait de se positionner et de développer quelque chose et d'être identifié sur ces sujets-là, plus avec le digital?
J'ai trouvé ça très difficile. Très difficile parce que il y avait paradoxalement deux mondes qui ne se comprenaient plus. Quand je vous dis que j'ai une certaine nostalgie je dirais pas de l'ancien monde, mais c'est que j'avais senti qu'il y avait une déjudiciarisation. Et une hausse de conseil, ce qui est mieux paradoxalement en période de Covidienne, parce que si vous avez une activité à 100% de conseil, c'est peut-être plus difficile. Mais j'ai vu que c'était quelque chose qui était peut-être plus administratif et que surtout, il fallait se remettre en question très régulièrement parce que parfois, c'est des choses qu'on ne comprenait pas et qu'on avait tendance à être avocat et être comme un bon vin en vieillissant. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait périmer très vite. Après, là, aujourd'hui, surtout quand on arrive sur les questions de data, de RGPD, il faut vraiment comprendre les besoins des clients, qui n'est pas forcément les mêmes entre bien plaider son dossier en 2003 et aujourd'hui par rapport aux attentes.
C'est quelque chose que vous appréciez dans votre activité, cet aspect entrepreneurial des choses, on va dire. La question du positionnement, du réajustement des problèmes, entre guillemets, que vous présentez comme pouvoir régler, enfin, le fait de aussi faire évoluer finalement le fond de vos sujets, enfin, voilà, cet aspect plus identification d'un besoin versus réponse d'un besoin. Je sais que par exemple, quand j'avais interrogé Didier Seban, qui a un vrai talent à ça, et on sentait qu'il y trouvait énormément de plaisir, quoi, à ce côté, que c'était quelque chose de très inné chez lui et que voilà, qu'il y prenait du plaisir. Vous, c'est quelque chose qui vous plaît dans votre activité?
Écoutez, d'abord, oui, parce que rien ne remplacera l'humain. Donc, je vois beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui m'expliquent leurs problèmes et je comprends pas toujours tout. Et en général, il me faut une nuit de réflexion en disant si tu vas pas dans cette direction, tu es mort. professionnellement. Et donc, c'est la magie du métier et c'est en même temps le drame du métier, c'est cette remise en question permanente et qu'on n'a finalement aucune sécurité. Ce qui est difficile aussi, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, sur des mondes qui ont changé, un palais de justice, un tribunal, une buvette, une activité 100% contentieux, d'un monde qui évolue tellement et donc il y a un monde qui est en voie de disparition et un autre qui arrive et nous on est au milieu du guet. Donc on a les codes de l'ancien monde et on essaye de comprendre mais il faut s'adapter jusqu'à la fin de manière continue. Ça c'est la remise en question de toute manière. Fait partie de notre ADN. Il faut systématiquement douter, et ne me demandez pas pourquoi, il y a la magie de l'action à un instant T qui fait qu'on a pu trouver la solution. Donc, et ça, je pense que tout avocat, jusqu'à son dernier souffle, il doit agir ainsi, mais ce qui fait que parfois, on peut avoir des grandes fatigues, et je peux comprendre qu'on puisse en avoir marre.
Comment a évolué votre activité dans le sens, cette fois, plus structuration ? C'est-à-dire que vous êtes arrivé collaborateur de votre père et aussi avec votre sœur ici, qui était sa collaboratrice aussi ?
Tout à fait.
Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes associée avec votre sœur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, on va dire ? Est-ce qu'à un moment, vous avez cessé la collaboration avec votre père, mais vous êtes restée dans les locaux ? Enfin, voilà, comment ça s'est passé tout ça ?
En fait, ça s'est fait assez rapidement parce que, comme je vous avais dit en introduction, je rentrais du business aussi simplement, ben, je devenais un actif. Et donc, ça ne me posait aucun problème métaphysique de partager le pot commun, puisque j'étais actif et plus sous dépendance. Donc, j'avais cette liberté. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Et c'est là où j'ai trouvé la chance, si vous voulez, parce qu'avec ma sœur, qui est mon aînée, qui est avec qui, en fait, on partage tout. Et c'était beaucoup plus simple, parce que je suis un affectif. Et donc, à l'heure où on fait des métiers très difficiles, exigeants. Il faut que quand on rentre, je dirais, à la maison, il y a un havre de paix. Donc, ça s'est fait assez naturellement parce que je ramenais à manger. Hein, c'est aussi simple que ça.
Et donc, au démarrage, il y a eu cette installation. Et ensuite, avec votre sœur, l'association. Ce qui est différent de juste partager des locaux. Et voilà, pourquoi vous êtes associés ?
Mais je crois que ça s'est fait assez naturellement parce qu'il y avait des synergies communes et puis à l'époque on faisait pas forcément les mêmes activités donc on était très complémentaires. Après, vous savez, c'était très artisanal hein, sur le fait de vous dire associé. J'aurais tendance à dire qu'avant qu'on le soit, on était associé de fait puisque même au début, quand je ramenais des clients, c'était un peu pour le pot commun. Il n'y avait pas de logique très financière. Moi, à partir du moment où j'étais libre et que je n'étais dépendant de personne, ça ne me dérangeait pas d'aider, de développer une activité que je voyais justement en mutation.
Et vous avez des collaborateurs ?
On a aujourd'hui, oui, nous sommes deux associés et il y a 5 collaborateurs.
À quel moment est-ce que vous avez recruté votre premier collaborateur ?
Ça devait être... je devais être ici, peut-être, je devais avoir 5 ans de barreau, 5-6 ans de barreau. Mais les recrutements chez nous sont toujours faits assez facilement. Je m'explique. C'est souvent passé par l'élève avocat. Et naturellement, la personne restait. Ça s'est toujours un peu fait comme ça. Donc, c'était pas un recrutement. Ça s'est souvent fait comme ça. Comme je parlais de cette notion de famille. On parlait et qu'on disait ah non cette personne va partir c'est pas on peut pas le recrutement il y a peu eu de recrutement par extérieur après X années on se rencontre on fait un essai parce que ça marche pas or là paradoxalement comme on se connaissait c'était un non événement la collaboration.
Il y a quand même une forme de recrutement par l'extérieur puisque l'élève d'avocat il vient de l'extérieur maintenant il vient comme stagiaire élève avocat et il se trouve que ça se prolonge dans une collaboration, mais mais en tout cas, ce que j'entends, c'est il y a une rencontre avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, et puis l'activité justifie que et on l'absorbe, quoi.
Vous avez parfaitement raison, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour si le stage se passe pas très bien, c'est le jeu, on part au bout de 3 mois, 6 mois, c'est pas le sujet. Or, je trouve ça difficile de faire rentrer quelqu'un et ça ne fonctionne pas et de dire au revoir, mais parce qu'il y a le jeu, mais c'est pas tellement dans notre ADN. Donc,
ça vous est arrivé?
Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. On n'en est pas si heureux que ça. Après, ça peut être dans les deux sens pour des raisons X, mais on a toujours, ça a toujours fonctionné plus ou moins ainsi. Mais on a de, on fait, à chaque fois, il y a des anciens du cabinet, on revient, il y a une certaine, cette notion de famille qui est très importante à nos yeux. On organise une fête chaque année, tous les anciens reviennent du cabinet. Voilà.
On a commencé cet échange et vous avez pas mal insisté sur la notion « je ne me vois pas vieillir ainsi ». Et donc, je vais bifurquer. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez vieillir comme avocat?
Je pense que, d'abord, ça va dépendre aussi de l'activité de ma femme, puisque nous sommes au travail. Elle fait du droit du travail, elle travaille dans un autre cabinet. On aura décidé ensemble. J'ai vu beaucoup d'anciens mourir sur scène, peut-être le coup de trop. Je crois en l'engagement et quand il y est, il faut y être vraiment. Et il faut savoir peut-être se retirer un instant T. Et j'ai cette notion-là. Bref, vous dire partir quand à un moment les clients veulent plus ou que tu te sens vite périmé. Mais je fais une matière qui est très exigeante en termes d'IT et donc tu peux vite être périmé. Donc j'ai conscience aussi de ça. Après, je crois aussi que c'est un métier qui est très exigeant, mais qu'il peut y avoir des paliers et que tu peux peut-être... j'ai 20 ans de barreau. J'ai fait un post à ce sujet sur mes 20 ans de barreau et cette entrée dans la vie de cette famille. Et s'il n'y a pas un engagement, s'il n'y a pas quelque chose d'autre en parallèle qui te donne cette envie de continuer... Tu peux peut-être en avoir marre de te lever le matin et te rentrer et te dire t'as facturé combien ce mois-ci et c'est pas suffisant. Donc ça, c'est peut-être un engagement. Alors, vous m'interrogerez certainement là-dessus, mais c'est aussi un engagement parallèle qui fait que je pense qu'on peut avoir plusieurs vies. Et ce qui fait que quand j'ai démarré en parallèle, donc on va dire dans les années 2010, 2011, une fois que j'étais peut-être un peu posé professionnellement, je suis rentré à l'UJA de Paris et j'ai aidé et j'ai participé à quelque chose qui nous dépassait, qui nous donnait cette envie qui nous dépasse. Voilà. Et je suis rentré à l'origine pour aider à SOS collaborateurs et j'avais vraiment le sentiment d'être utile. Voilà.
Non, mais c'est vrai que ça pose la question. C'est une question intéressante. Hein. La vie professionnelle est quand même longue et bien évidemment, on est obligé d'évoluer parce que toute matière se renouvelle et que, comme vous dites, on peut vite être périmé, ne serait-ce que sur la technicité de ce qu'on fait. Et donc, ça, c'est quand même déjà des nouvelles occasions de se challenger. Mais au-delà de ça, il y a la question du renouvellement, de se réinventer comme avocat, qui peut passer par des choses extérieures. En tout cas, vous, c'est passé d'abord par un engagement à l'UJA, à SOS collaborateur. Aujourd'hui, du coup, ça passe par le bâtonnat. Mais avant ça, je crois que vous avez été membre du Conseil de l'Ordre. Enfin, donc, il y a vraiment eu ce côté, aller chercher par un engagement externe quelque chose qui permet de pas s'ennuyer, quoi, de pas ronronner.
Je suis convaincu que le métier d'avocat, c'est parfois, ça peut être un sacerdoce. Et que plus on travaille, plus on en a, mais que ça peut pas être juste. Je me suis levé, j'ai facturé, je rentre chez moi. Donc moi, il y a cette notion de collectif ou de cette notion de famille qui est pour moi fondamentale et ce qui donne paradoxalement cette envie de continuer le métier. Je l'ai vu ainsi, hein, parce que j'ai vu autour de moi beaucoup de gens arrêter. Parce qu'ils avaient le sentiment que ça ronronnait ou qu'ils voulaient autre chose, parce que le métier est difficile. Et que parfois, avec une double activité, alors qu'il soit associatif ou ce que vous voulez, permet de donner un sens à son existence et à sa vie. Et vous parlez je rentre à l'UJA par SOS collaborateur. Et effectivement, à l'époque, j'assistais devant les commissions d'exercice de l'ordre, collaboratrices et collaborateurs en difficulté. Et quand il y avait un accord où il y avait quelque chose, tu rentrais, tu t'es dit, j'ai servi à quelque chose. Et j'étais à l'ordre, on en reparlera certainement. Mais pour moi, mon plus beau souvenir ordinal, c'est pas quand j'étais délégué aux affaires publiques que j'ai rencontré le Premier ministre. Ça fait partie. Mais mon plus beau souvenir, c'est quand il. D'abord, alors je présidais la commission d'exercice en collaboration libérale, donc en gros problème patron client collaborateur. Quand tu ouvres le dossier, tu dis j'arriverai pas, parce que c'est à chaque fois je fais toujours ça. Je dis j'arrive, on n'y arrivera jamais. Et ce qui fait que certains disent bon, on n'y arrivera jamais, on va arrêter au bout de 3 minutes. Et moi je dis bon, on n'arrivera pas, mais bon, on va mettre le temps qu'il faut. Et donc c'est souvent des pièces à la Feydeau, tu sors, tu reviens, tu sors, tu reviens. Et j'oublierai mon plus beau souvenir, c'est qu'après des échanges mais glacial, mais froid, on a réussi à remettre un tout petit peu de chaleur et on a réussi à un accord. Vous allez me dire, ok, super, il est 2h du matin et quand on signe l'accord entre les deux parties, il y a un moment, on est fatigué, on se déshabille, on enlève sa robe, on se remet en civil. Et donc, on n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer chez soi. Et il est arrivé un moment tellement étrange qu'il faut rentrer chez soi, mais il y a l'ascenseur. Donc, il faut bien rentrer dans l'ascenseur. Et là, tu te dis, par définition, tu présidais la commission, il ne faut pas que tu te retrouves avec les parties. Et donc t'attends dans l'ascenseur, mais là pas de chance, on se retrouve tous dans l'ascenseur, la demanderesse, et on se retrouve là. Et alors là, t'es le membre en exercice, silence radio, tu regardes tes pompes et tu baisses la tête parce que tu ne peux plus intervenir, tu devrais pas être dans ce moment-là. Et il y a une des parties après, et je me suis dit, en plus je me dis vaut mieux que je reste là parce que je peux être entre guillemets le tampon s'il se passe quelque chose. Et il y a une partie qui se lève et qui regarde l'autre partie qui lui dit « Elle va comment, ta sœur ?» Et là, l'autre lui répond et commence à discuter. Et je me suis senti la petite souris et je me suis senti même l'intrus. « Laisse-les, tu n'as plus ta place. » Et en fait, on avait rétabli un courant et rétabli l'humanité. Et j'ai su après qu'ils avaient pris un verre sans moi, parce que en gros, c'est bon, t'es gentil, Hoffman, tu t'en vas. Et ils avaient rétabli ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui a été magnifique. Tout n'est pas facile, tout n'est pas rose, mais c'est se rétablir ce contact humain. Et alors là, vous voyez, ça redonne un sens à aller facturer le matin à le client, il a payé, non, il a pas payé, bon, relance-le, vous voyez, le quotidien qui peut parfois miner.
Donc ça, c'était pendant que vous étiez à l'ordre. À l'UGIA, à l'ordre, à l'ordre.
Alors, attendez, juste une précision. Donc, j'ai...
Cette anecdote que vous avez
mentionnée. Non, ça, c'était quand j'étais membre du Conseil de l'Ordre et que je présidais cette commission-là. Et donc, pour répondre à la question d'origine, on ne peut pas, à mon sens, si on n'a pas un autre engagement, on peut pas. C'est difficile de tenir dans ce métier 40 ans ou 50 ans s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui vous dépasse un petit peu.
On a parlé de cette joie de rétablir un courant, un lien.
Notre serment, tout simplement.
Votre serment. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans le fonctionnement de ces médiations, de ces conciliations. Enfin, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez?
Alors attendez, votre question, elle est précise sur une commission où j'ai des regrets, des évolutions, où je peux vous parler peut-être d'une évolution de ce qui s'est passé sur les choses, mais vous parlez
de façon circonstanciée dans cette commission de règlement des différends, je comprends, entre les collaborateurs et leurs patrons. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans le mode de fonctionnement de cette commission et dans ce qui s'y passe et dans la manière dont les différends sont réglés? Et est-ce qu'il y a des améliorations que vous voyez possibles?
Alors, pour répondre sur cette question précise, oui, il faut aussi comprendre que nous sommes dans les années 16, 17, 18, pour replacer les choses en termes de temps. Et dans les années 16, 17, 18, on s'est rendu compte que mon travail... D'ailleurs, je remonte quand j'étais à SOS collaborateur, donc on va dire les années 2012-2015, et après, je suis en exercice de 2016-2018, donc je passe de l'autre côté. Ce n'était que des problèmes financiers qu'on réglait. Des bras de fer, t'as pas payé X, il faut paye. Et donc, à un moment, on faisait des bras de fer et des transitions, j'arrivais très bien à régler la situation. Ce qu'il a pu se passer avec le temps, on s'est rendu compte dans les phases d'amélioration, c'est qu'on s'est peut-être rendu compte que j'étais bon négociateur et pour essayer de remettre de l'argent, et ce que j'appelais souvent en négociation une paix sèche, c'est-à-dire le but, c'est que c'est tellement dramatique qu'il faut que vous vous quittiez dans 5 minutes, 1 heure ou 6 heures, mais que vous ne vous revoyez plus, mais que nous, on acte la fin. Donc, il faut que tout soit réglé. Les actes d'amélioration, on s'est rendu compte au bout d'un temps, mais tu ne te rends pas compte tout de suite. C'est que tu peux y avoir parfois plusieurs cabinets qui sont à peu près les mêmes, qui reviennent de manière récurrente. Et là, c'est comme ça qu'il y a eu aussi des évolutions pour se dire, parce qu'on faisait des conciliations, X, on a réconcilié le dossier et de se dire ouais mais enfin mais il faut maturer et tu te rends pas compte forcément et c'est pas forcément le même membre qui va gérer tel dossier mais tu t'es rendu compte peut-être en matière de recoupement que si c'était 5 fois ou 6 fois ou 10 fois le même cabinet dans ces conditions il fallait peut-être malgré l'accord financier qui te lie pouvoir déontologiquement ouvrir quelque chose.
Et c'est possible ça maintenant?
Oui, c'est possible. C'est-à-dire de dissocier l'aspect financier de la conciliation, ce qui n'empêche pas que... Mais il a fallu évoluer, hein. Je vous le dis naturellement, dans les années 12 ou jusqu'à 16-17, on s'en rendait pas compte. Et puis, tu peux pas savoir forcément. C'est aussi le problème, c'est de l'humain, c'est que tu n'as pas forcément des recoupements, ce que j'appellerais la mémoire du cinéma français.
Qu'est-ce qui est mis en place pour pouvoir identifier les recoupements?
C'est-à-dire qu'à un moment, avec les référents, il y a eu le référent collaborateur qui identifiait et tu le savais parce que ça finissait par se savoir par les avocats des partis qui étaient souvent les mêmes et on s'est rendu compte que c'était 5e fois, 6e fois, 10e fois le même cabinet et donc on décidait éventuellement l'accord financier est une chose, c'est très bien. Mais l'ordre doit s'auto-saisir sur un problème particulier de manière sur une récurrence.
Il y a quelque chose de digitalisé pour suivre ça? Parce que sinon, ça repose sur le fait que les membres du Conseil de l'ordre communiquent entre eux et deux la mémoire entre guillemets récente de cet ordre.
Simplement, c'est que j'étais membre jusqu'en 2018.
Donc, il faudrait poser la question à quelqu'un qui est en interne aujourd'hui. Ouais.
Je veux pas vous dire de bêtises. En 2018, non, on remplissait les formulaires du grand cahier noir d'accord. Je voudrais pas vous dire de bêtises sur ce point. C'est aussi la raison pour laquelle d'avoir peut-être des référents. Et c'est le problème aussi du mouvement des membres du Conseil de l'Ordre qui tournent à chaque fois et qui n'ont pas forcément et qui avoir un temps plein pour avoir ça. Et donc là, juste pour le pérenniser, on avait commencé à travailler ces questions à 2018. Mais répondre à votre question précisément sur la digitalisation...
Non, mais vous avez raison, vous n'êtes plus en interne, donc ce serait difficile d'y répondre. Mais je pense que ce serait presque quelque chose de plus fiable, quoi. De se dire qu'il y a une forme de registre digital qui fasse que c'est facile d'identifier les récurrences, en tout cas. Et aujourd'hui, nouvel engagement. Donc, sachant que vous avez expliqué, vous avez quitté le Conseil de l'Ordre comme membre du Conseil de l'Ordre en 2018-2019.
Oui, tout à fait. J'ai quitté mon mandat en décembre 2018. C'était 3 années très denses, pas simples. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais je pensais ne jamais me réengager, si vous voulez le fond de ma pensée. Il faut comprendre aussi une chose, ce que je vais vous dire n'est pas propre à notre ordre, c'est à l'image de notre pays, il y a une crise d'engagement. Et quand je suis élu en décembre 2015, au Conseil de l'Ordre, il y a 44 candidats, dans un palais, 25 000 avocats, 11 000 votants. Et aujourd'hui, alors je prends les dernières élections du Conseil de l'Ordre, grosso modo, pour 34 000 avocats, je crois qu'il y avait eu 8 500 votants. C'était évidemment pas élection bâtonnat, mais élection Conseil de l'Ordre. Et donc, j'ai assisté peut-être, c'est ce que je veux dire, que l'ordre et le refrain de notre pays, c'est peut-être une crise des institutions, une crise des corps, de tout ce qui est corps intermédiaire, mais c'est pas forcément notre ordre, c'est à l'image de ce qui se passe dans notre pays quand on voit les débats publics qui sont parfois assez affligeants, et pas d'écoute. Et quand j'ai quitté ce Conseil de l'Ordre en décembre 2018, avec une grosse fatigue en disant, parce que on avait beaucoup donné, j'ai dit, bon, ce qui était pas grave en soi, hein, qui était de dire, c'est un temps, tu retournes dans ton cabinet, mais je vous le dis, une petite tristesse, et dedans, je mets des membres de ma promotion, d'Emmanuel Daoud, Jean-Pierre Grandjean, Natacha Kouchner-Kergil, on s'est dit, bon, on retourne dans notre cabinet, mais on ne veut plus en entendre parler, et on avait fait des choses, mais ça avait été très éprouvant, même physiquement, on avait beaucoup donné, même, je me rappelle, moi, un jour, je rentre dîner à la maison, après mon mandat, il y a mes enfants qui me regardent comme ça, et ils parlent avec leur mère et tout ça, et ils me regardent et ils me disent, mais... qu'est-ce que tu fais là? Et j'ai dit, mais tu vas être toujours là. Et je leur ai répondu, oui, je serai toujours là. J'avais tellement donné, entre guillemets, qu'il fallait une coupure, qui pour moi était très saine.
Et cette tristesse, c'était. C'est lié à un sentiment d'ingratitude, c'est juste la tristesse du burn-out, juste parce qu'on travaille trop et qu'il y a beaucoup d'engagement et que donc on n'a pas de temps pour soi et pour ses proches. Elle vient d'où cette tristesse ?
J'avais vu sous mes yeux un changement de paradigme, mais il faut aussi comprendre une chose. On est dans l'ancien palais, avec une identité de lieu, avec une buvette qui fait avec une activité plutôt très judiciaire et sous nos yeux, comme vous parliez tout à l'heure là de la on a voté la télévision et un changement complètement de monde et un changement de palais où il fallait et on savait peut-être plus, on avait peut-être pour notre profession une certaine perte de repères parce que où on habitait, est-ce qu'on était encore dans le musée, entre guillemets, j'adore l'ancien palais, mais je disais qu'il y a un moment, il fallait partir, non pas que je préfère à titre la place Dauphine au périphérique, pour reprendre les expressions de certains, mais ce qui comptait, c'était la vie et c'était retrouver la vie. L'ancien palais que j'adore, mais il y a beaucoup d'anciens qui parlent de comment dirais-je de ah, tu te rappelles, c'était mieux. Oui, mais il y a un côté de Tchernobyl. C'est resté magnifique. Mais ce qui compte, c'est la vie. Et il y avait ce passage qui se pesait pas forcément. Et peut-être à l'heure du où il y a des jeunes qui rentraient dans la profession, qui quand ils disaient quoi, tu me parles de l'ancien palais, la buvette, tout ça. Mais enfin, de quoi tu me parles? Moi, j'ai prêté serment. C'était le confinement. J'ai même pas prêté serment. On m'a donné un truc comme ça. Et tu me parles de famille. Je sais pas de quoi tu me parles. Et d'ailleurs, qui rentre comme nous, peut-être en 2003, on était peut-être un peu frondeurs, mais on obéissait. Et une jeune génération qui rentre et qui rentre comme ça et qui dit, j'ai resté 6 mois, 1 an, repartir. Il n'y a plus cette notion de famille. Et donc, j'avais vu sous mes yeux quelque chose qui était en train de s'effondrer et qui avait été magique à un moment. Parce qu'il faut aussi savoir une chose. Quand je m'engage dans les années 2010 ou 11, j'ai plus les dates exactes, mais il y a quelque chose de merveilleux. On a le sentiment d'appartenir à un corps, à quelque chose qui nous dépasse. Et le déménagement, les grèves de décembre, le Covid, en fait, tout ça n'a pas aidé. Et que pour reprendre la question que vous, c'est que bon, en fait, quand je fais les choses, je les fais vraiment à fond. Et quand c'est fini, c'était fini. J'ai pas de nostalgie, mais je pensais pas y retourner parce que pour moi, c'était vraiment terminé et que c'était la fin d'une époque de quelque chose qui peut-être périclitait un tout petit peu. Mais c'est propre à l'image de notre pays. Après, et il a fallu un long processus pour, et puis une certaine Vanessa Bouzardeau, qui rentre qui me télescope dans ma vie, parce que c'est surtout ça, qui a tout changé.
Ben, justement, racontez-nous, qu'est-ce qui fait que ça a changé? C'est quoi ce processus et le rôle de cette rencontre? Qu'est-ce qui fait que vous avez à nouveau envie de vous engager?
Alors, d'abord, donc vous avez compris, moi j'ai quitté ce monde, j'ai quitté le Conseil de l'Ordre, et souvent les gens me disaient, mais tu vas faire quoi? Je leur dirais, mais tu sais, je suis avocat, c'est le bon métier. Donc il y a rien. Et donc j'avais continué tout simplement à faire mon métier dans des années où justement. Qui était assez difficile, donc à l'événement du digital où là il fallait encore plus. En plus, on est dans le RGPD, donc il y a un vrai travail derrière tout ça que on maîtrisait pas forcément au début de sa carrière. Donc il faut reconstruire, faire son métier tout simplement. Et nous avons un problème technique au cabinet. Qui est un problème de locaux et de bail. D'ailleurs, vous êtes dans ces lieux-là, symboliquement, dans nos locaux, et on va être expulsé de chez nous. Et on va être d'autant plus expulsé de chez nous pendant les grèves de décembre, juste avant le Covid. Donc, c'est la période la plus sympa, et on n'a pas de plan B. Il y a un miracle, et en sachant que nous sommes dans ces locaux historiquement depuis, ce qui est pas très malin, mais locataire depuis 1965, oui, c'est pas très très malin, mais on se retrouve dans cette situation-là.
Je crois que vous avez un point dans votre programme sur la patrimonialisation des cabinets d'avocats.
Oui, c'est
peut-être une réponse à.
C'est un vrai sujet. D'ailleurs, en re-signant le bail ici pour 12 ans, j'avais dit, je sais pas qui est l'idiot qui a signé ce bail à l'origine. Bon, bah, je vais refaire exactement la même chose. mais c'était aussi un autre sujet, c'est que symboliquement, nous avons toujours été dans ces lieux 26 Kléber et que on n'avait pas envie de. C'est un sujet d'ailleurs avec ma sœur qui était de se dire, on va acheter des locaux. Et on y a pensé, on y a songé, mais ça allait forcément être moins bien que là où on était, qui était notre lieu, et que dans l'imaginaire collectif, on avait envie d'y rester. Bon, je ne vais pas rester sur ce sujet qui n'a pas d'intérêt. L'intérêt...
Il a un intérêt affectif.
Il a un intérêt... Symboliquement, il a un intérêt...
Il a un intérêt symbolique et affectif.
Il a un intérêt symbolique et affectif. Et on se retrouve pendant le confinement, je crois qu'on est sans droit ni titre, puisque le bail a expiré, évidemment, on paye notre loyer, c'est pas le sujet, mais on a dû signer le bail par voie électronique à cette période-là. Et on se retrouve, alors on avait fait des travaux, je passe, et on se retrouve avec ma sœur en plein confinement. On dit, il y a peut-être un peu trop de place, ça n'a aucun sens économique, et on va peut-être louer un ou deux bureaux. Bon. En sachant que je suis pas loueur de bureau et que c'est pas mon idée première et que j'ai aucune envie, et je dis tu nous vois mettre une annonce, et en plus comme on est des avocats, on en connaît beaucoup, donc on se dit on va peut-être faire du bouche à oreille et tout ça. Et là, me demandez pas pourquoi, Vanessa Bouzardeau recherche des locaux à ce moment précis, et notre première rencontre. Et plutôt glacial, et c'est de ma faute, parce que je suis quelqu'un plutôt sympa et humain, et j'aime les gens, mais j'ai dit à ma sœur, mais imagine, on se fâche. J'avais pas envie de faire rentrer quelqu'un qu'on connaissait indirectement et que ça se passe mal. Et j'aurais dit, mais non, vaut mieux qu'on fasse rentrer un tiers qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, bon, on se dit bonjour, au revoir, bon. Il se trouve que ça s'est pas passé ainsi et que Vanessa s'installe et elle vit sa vie. Et la particularité de notre rencontre, c'est qu'elle rentre au Conseil de l'Ordre quand moi j'en sors. Et alors là, on est fin de confinement et c'est une période couvre-feu 1, couvre-feu 2, enfin les périodes que vous connaissez, qu'on a tous connues, où on mange à 3 mètres d'écart et qu'on parle. Et elle s'engage, elle est très engagée. Et moi, je lui dis, comme un ancien combattant, tu sais, moi, c'est terminé. J'avais la foi, j'avais le feu sacré. Je l'ai perdu. Mais occupe-toi de ton cabinet, occupe-toi de ta famille dans ces périodes qui sont lunaires. C'est lunaire. C'est pas que ça ne m'intéressait pas à la chose ordinale, mais dans ces périodes si difficiles, tu dois sauver ta peau, sauver ton cabinet, sauver ta famille. Enfin, et puis c'était une période, bon, un peu difficile où j'avais un père malade. Enfin voilà, on revenait peut-être aux fondamentaux. Et pendant deux ans et demi, on a cheminé ensemble, discuté. Vanessa qui me dit, écoute, je vais peut-être être secrétaire du conseil. Qu'en penses-tu? Et je crois que j'ai dû lui répondre, t'as pas des idées encore plus sottes en couvre-feu 1 ou couvre-feu 2, occupe-toi de ton cabinet, occupe-toi de ta famille. Et évidemment, elle est devenue secrétaire du conseil. Et pendant deux ans et demi, on a discuté. D'abord, une vraie complicité et amitié est née. Et pendant cette période compliquée, où c'est tellement facile de dire, de critiquer et de laisser faire, il s'est passé quelque chose. Elle m'a redonné cette envie, ce feu sacré que je n'aurais mais jamais eu si elle n'était pas arrivée avec moi. Et j'ai aucune honte à vous dire que si Vanessa Bouzardeau n'était pas arrivée dans ma vie à cet instant T, je ne serais pas candidat aujourd'hui, ce qui n'est pas grave en soi. Mais le paradoxalement, je vais vous dire, mais puisqu'elle est arrivée à cet instant T, dans ce moment difficile et qu'elle a, elle m'a réveillé, on dit on peut pas laisser passer l'occasion. Voilà. Et il s'est passé quelque chose d'humain et qui fait que c'est une certaine forme de destin. Vous le prenez comme vous le voulez, mais que s'il y a pas une dimension qui t'échappe un peu au-dessus, sinon t'es juste un homme politique qui veut se présenter à une élection, ce qui est pas notre cas. Pour nous, c'est des avocats qui font un passage et qui retourneront dans leur cabinet après.
Et dans ces conditions, sachant que vous aviez cette petite désillusion et que c'était surtout elle qui était animée par ce feu sacré qui vous l'a tellement animée qu'elle vous l'a qu'elle a rallumé votre flamme, on va dire. Pourquoi est-ce que c'est vous qui vous présentez comme bâtonnier et elle comme vice-bâtonnière?
On nous pose souvent la même question. Ça, je suis
désolée de cette question banale,
non,
du coup.
Non, mais que je vous dis, c'est pas vraiment un sujet pour nous. Il se trouve que j'étais d'abord sur le cheminement. C'est très important sur le cheminement qui fait que j'étais. Ça s'est fait progressivement et cette envie. Pour répondre précisément à votre question, il se trouve que j'étais libre, elle ne l'était pas. Parce que au moment du déconfinement, on commence à faire. Elle était membre en exercice et que moi je pouvais aisément dire que j'avais envie de me présenter, ce que je ne pouvais pas faire. Ce qui n'était pas encore sûr pour elle, hein. Mais à ce moment précis, j'étais dans cette optique. Je vais m'y engager. J'étais sorti du Conseil de l'Ordre depuis un certain temps et ça s'est fait un peu comme ça à l'origine le point de départ.
Et donc on vous pose souvent la question.
Oui, c'est tout à fait illogique. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'on nous le pose souvent dans présentation cabinet. Et en général, à la fin, au fait, mais qui est qui? Parce qu'on l'a jamais posé. Et c'est vrai qu'on a, c'était pas forcément pour nous un sujet. Et, si techniquement, mais c'est la raison aussi pour laquelle je vous ai dit, elle serait pas là, je serais pas candidat. Et j'espère que la réciproque est vraie.
Et du coup, donc ça rallume un feu sacré, mais du coup, bâtonnat, sans parler de bâtonnier, vice-bâtonnière, mais bâtonnat pour vous deux. En tout cas, pour vous, pourquoi?
Alors, c'est
pour faire quoi de plus? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une réponse égoïste, hein. Peut-être que c'est une question de trop. Hein.
Non, c'est pas du tout une question de trop. Il faut revenir sur la magie de départ et que je vous parle de notre élection en décembre 2015 avec 44 candidats dans un ancien palais et avec cette notion de famille, cette notion de quelque chose qui nous dépassait. Et sous mes yeux, j'ai vu une crise d'engagement et n'ayons pas peur des mots, parfois un sentiment de défiance vis-à-vis de l'institution qui est arrivé. Et de manière peut-être, certains vont peut-être critiquer l'institution ou l'attaquer, d'autres vont vouloir tenir. Et à cette période-là, moi, cette tristesse, j'ai préféré couper purement et simplement ce que je vous avais dit en disant, c'est pas moi que d'autres y aillent, mais j'avais plus cette envie. Et le constat que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes là où nous sommes. C'est-à-dire, il y a deux façons de voir les choses. Soit on le voit sous le prisme négatif, qui était peut-être mon cheminement personnel si vous m'aviez posé la question en 2018 ou en 2019 ou en 2020. Comme certains, d'ailleurs, n'hésitent pas à critiquer l'institution. Mais c'est un message négatif. Et j'étais peut-être à cette période-là, dans cette mais j'ai préféré couper. Or, je me dis, aujourd'hui, il faut avoir un message positif, c'est de se dire, on est descendu là, on est descendu. Je parle en termes d'engagement, en termes de vote, en termes de... on va tous les jours dans les cabinets, je sais exactement ce qu'on nous dit. Et je veux dire, chez nous, on affronte la difficulté et on s'en cache pas. D'ailleurs, dans une partie de notre programme, on a des choses là-dessus. Et c'est comment on redonne cette confiance? Comment... Et j'ai tendance à inverser la question, c'est de se dire, mais finalement, on a l'ordre qu'on mérite. C'est facile de dire, oui, le truc, il a fait ci, il a fait ça. OK, on peut tous le faire et rentrer chez nous le soir. Et j'ai plein d'amis dans des cabinets qui me disent, ouais, Hoffman, je vote pour toi, c'est pas de problème. Et à la fin, oui, d'ailleurs, c'est terrible, c'est nul, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez truc, OK. Et rien. Tu veux t'engager? Ah non, j'ai pas le temps, j'ai une famille, j'ai un cabinet. Okay. Et on se retrouve finalement, ce qu'on aura envie de faire, c'est de rouvrir une porte, c'est de se dire, je le dis souvent, ça se fait naturellement, mon souhait le plus cher, c'est pas que nous gagnions en décembre 2000, en juin 2023, c'est quand nous partirons, il y a ces 44 candidats au Conseil de l'Ordre. C'est-à-dire qu'il y a un engagement, alors que pas tout le monde se présente au Conseil de l'Ordre, mais réinvestisse notre ordre dans ce qui est notre bien commun. Et donc, c'est sous un autre prisme que je prends les choses, qui est de se dire, on ouvre une porte, mais ça se fera pas en un ou deux ou trois bâtonnats, ça se fera en plusieurs, à l'heure où on a peut-être perdu quelques repères. De lieux, comme je vous l'ai dit, mais comment on rétablit cette magie qu'on a eue et qui fait que les jeunes qui rentrent ne rentrent plus en religion comme nous, on pouvait rentrer, et qui font 3 mois, 6 mois et qui partent. Et donc, peut-être, j'ai 20 ans de barreau et on est à mi-chemin entre le monde qui nous faisait rêver et prendre les nouveaux, une espèce de transmission et de leur dire « engage-toi dans quelque chose ».
Et alors, comment vous comptez faire ?
Alors,
tout, bien sûr, hein, avec l'humilité du temps de ce qu'est un mandat de bâtonnier, mais oui, vous, comment vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour refaire famille?
Il y a un point qui est, quand je parlais de l'ancien palais, d'identité de lieu et de la buvette, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'était des lieux de rencontre, de vie. Il y a moins ces moments de vie. Et comment on va redonner cette confiance dans l'institution? Et je pense que ça ne peut fonctionner que de manière collective. Collective, je ne sais pas si Vanessa, après vous avez interrogé, a parlé de notre programme, mais c'est remettre un peu, tout le monde puisse participer à l'effort de guerre. Évidemment, personne n'est obligé de le faire, mais faire participer. On a décidé, en matière, par exemple, déontologique, de commencer par-ci, de tirer au sort les consoeurs et les confrères pour qu'ils puissent participer à la chose publique et que les décisions soient rendues, entre guillemets, au nom du peuple des avocats. Et pour inverser cette tendance, personne n'est obligé de venir, mais si un avocat ou une avocate dit « je ne suis pas voulu venir », je dis « c'est ton droit le plus absolu, mais on t'a tendu une porte, t'as pas voulu venir », ne viens pas critiquer l'institution. On a un sujet en matière de discrimination et de harcèlement. Vous voyez, je n'élude pas les questions et les problèmes. Il faut savoir aussi une chose, même sur l'évolution de ces problématiques-là. Ma promotion 2016, 2017, 2018 du Conseil de l'Ordre, c'était une période où des affaires ne sortaient pas. Une omerta pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et elles sont sorties. Donc, on peut le voir sur le côté négatif des choses, ça ne sort pas, c'est horrible, et par quelque chose qui a fini par sortir. Et on va arriver peut-être à notre question de signalement externe.
On en a pas mal parlé avec.
Je savais pas, mais c'était aussi pour vous parler de l'évolution, qui est de se dire qu'aujourd'hui les gens n'avaient plus confiance dans la machine, dans l'institution, et alors que finalement les affaires sortaient et qu'ils préfèrent faire un tweet balance ton cab ou appeler Libération que retourner à la maison. Je schématise. Alors si vous en avez déjà parlé avec Vanessa,
non, mais ce dont on a parlé, mais parce que tout le monde ne nous écoutera pas, n'écoutera pas toutes les interviews. Enfin, peut-être pas, mais c'est vrai qu'on a parlé de ça. Et moi, j'ai évoqué le sujet d'une vraie justice ordinale sur ces sujets-là, quoi. De la saisine et de l'autosaisine de l'ordre sur ces sujets-là, des moyens pour que les enquêtes aient lieu et qu'elles aient lieu correctement. J'ai évoqué le fait que pour connaître des personnes qui font des enquêtes internes pour l'ordre, c'est parfois un travail considérable qui est juste pas rémunéré, donc c'est du bénévolat pur. Ce qui pose quand même un problème de viabilité du modèle, surtout quand on a de la masse. Quand on a du signalement en masse, enfin, je veux dire. Donc voilà, c'est effectivement des sujets qu'on a abordés. Mais c'est sûr que la perte de confiance en les institutions est aussi liée à cette impression que les personnes qui ont besoin de l'ordre ne reçoivent pas du soutien de l'ordre et qu'il y a une omerta et que des affaires ne sortent pas et voilà tous ces sujets-là, et c'est sûr que ça crée des brèches de confiance, quoi.
Alors je ne peux que souscrire, et c'est la fameuse phrase fort avec le faible, faible avec le fort. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui fait qu'aujourd'hui je pense que rétablir cette confiance avec ce qu'on propose, en faisant participer les autres à l'effort collectif, qui fait que si à un moment, et c'est une crise vertueuse ou l'inverse, c'est que si on vote plus, si on connaît plus les membres, si personne veut s'engager, on peut aussi, parce que si le gagnant de la prochaine élection, il a 4000 voix, 5000 voix, 6000 voix sur 34000, il représente quoi? C'est un cercle vicieux, et on veut essayer d'inverser une tendance qui se fera simplement avec peut-être et autour de nous. Il y a des embryons de futurs candidats à l'ordre qui veulent y aller en se disant je vais participer à l'effort collectif de manière temporaire. C'est pour ça. Alors, je vais peut-être pas revenir sur si Vanessa vous en a parlé sur ce sujet-là. Mais pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Et ce cheminement de signalement externe, on a mis un certain temps à le faire, à l'avoir. Et j'ai même tendance, moi, il y a un an, à dire à des plus jeunes, mais écoutez, nous, ces affaires sont sorties, donc c'est plutôt positif. Même l'ordre dernièrement a fait chantier de la collaboration, a invité le journaliste de Libération pour parler de ces sujets qui sortaient les affaires. Et j'ai dit aux plus jeunes, mais vous vous rendez compte, nous, il y a 10 ans, jamais on aurait invité le journaliste qui sort les affaires. Donc, entre guillemets, la confiance, elle est revenue. Les jeunes disent non, on n'a pas confiance. Donc, vous voyez, moi, j'ai évolué sur la question parce que c'était très dur aussi ce qu'on a fait, nous, pour sortir des choses qui pouvaient pas sortir. Et qu'ils n'ont pas confiance, et ben, d'où ce signalement externe, parce que nous, on veut aussi les ramener à la maison plutôt que le tweet ou la dénonciation pure et simple.
Non, mais on en revient aussi à... Enfin, si on fait un parallèle avec ce qui peut se passer dans la justice, entre guillemets, civile, entre les salariés et les employeurs, la raison pour laquelle il existe des tweets et des balance-tons, c'est... Et d'ailleurs, je parle du droit du travail, mais je pense que c'est aussi en droit pénal. C'est parce que la justice est trop lente. Et voilà. Mais après, enfin, moi, je comprends hein, que matériellement, j'ai eu des discussions très intéressantes là-dessus avec des personnes qui mènent des enquêtes pour l'ordre. C'est-à-dire que ben, c'est long parce que c'est des personnes qui font vivre leur cabinet en parallèle et que c'est pas une activité qui est rémunérée pour elles. C'est bénévole et qu'en même temps il faut faire des enquêtes qui soient sérieuses, il faut prendre le plus de témoignages possible, il faut aller confronter les choses, il faut aller chercher des faits, il faut construire des dossiers pour que ensuite la formation entre guillemets de jugement puisse juger en respectant des principes de procédure qui sont normaux. Enfin, voilà. Et que tout ce temps-là est un temps qui n'est pas le temps de la personne qui rencontre cette situation et qui veut une solution rapide et qui veut surtout une reconnaissance rapide d'une anomalie et une sanction d'ailleurs du comportement pour que ça ne se répète pas à l'avenir, qu'il n'y ait pas d'autres victimes, on va dire. Donc ça, c'est, je pense, c'est un mélange entre un problème social d'impatience globale. On est globalement plus impatient et il y a plus de difficultés à attendre entre un désir et sa réalisation. Et en plus de moyens mis pour que cette justice se réalise, quoi. Et c'est...
Je partage votre constat, mais c'est vrai que parfois on dit mais que fait l'ordre ? Mais l'ordre parfois ne peut pas communiquer parce qu'il y a une enquête en cours.
Ouais.
Donc l'ordre fait son travail et ne peut pas le dire. Et il ne faut pas perdre de vue aussi que nous sommes avocats et qu'on est quand même le temple de la présomption d'innocence. Mm-hmm. Ce qui est quand même un point important. Et donc on doit aussi tout vérifier et que c'est plus facile de faire un tweet et de s'en laver les mains. Je vais pas dire que c'est tort, c'est raison, mais que...
Non, mais je vous rejoins. Moi, j'ai souvent ce sujet. Hein. À mon tout petit niveau, j'ai souvent ce sujet de... d'informations qui me sont remontées et de demandes de prise de position par rapport à certaines choses. Et bah en fait mine de rien bon il y a certaines personnes pour lesquelles il y a une telle récurrence que c'est sûr que on finit par se dire que voilà mais pour d'autres je parle très spécifiquement par exemple de mon activité avec Iris et Témis qui est une entreprise de diffusion d'offres de recrutement en cabinet d'avocat et voilà et ça nous est arrivé d'être interpellé par les gens en mode bah un tel moi j'ai une expérience négative bah oui mais nous on s'est aussi renseigné et on a aussi parlé avec des gens qui ont une expérience positive et donc qu'est-ce qu'on en fait de tout ça quoi et à quel moment est-ce qu'on peut trancher et dans quel sens on tranche donc ça ramène quand même aussi beaucoup d'humilité dans l'exercice donc bref la situation est insoluble il est pas question de enfin il est insoluble en tout cas il y a sûrement plein d'améliorations qui sont à faire et je trouve, en tout cas, c'est vrai que je trouve que cette proposition est intéressante de signalement externe. Maintenant, c'est comment ce sera traité, quoi. Enfin, c'est-à-dire comment seront traités ces signalements, quelle part de saisine, à partir de quand on se saisit, à partir de quand on fait des enquêtes, quels moyens on met en place pour que ces enquêtes aient lieu, et puis ensuite quelles sanctions, effectivement. Mais
ben, voilà. Moi, je pense que c'est d'abord un bon signal parce que. On a tendance à dire je veux pas le faire parce que je connais machin qui connaît machin qui est l'ami de truc donc c'est l'oncle du beau-frère du machin donc je vais pas le faire je la fais courte hein, j'anticipe la question mais s'il y a des 12 signalements aucun signalement et que l'ordre ne l'a pas traité là nous sommes en situation de faute et mais ça nous permet de faire les recoupements et là j'aurais tendance à dire on aurait raison de faire le tweet ou l'article dans la presse et c'est comme ça qu'on veut rétablir cette confiance-là. C'est une conviction profonde, mais vous voyez aussi que il a fallu du temps pour cheminer et en arriver à cette situation parce que entre 16, 17, 18, donc c'était pour si vous comprenez maintenant quand je vous dis que c'était une période difficile, c'était pas une période simple et que la facilité, et c'est la facilité, c'est de dire bon, allez, j'abandonne. Et je tape sur la machine et je critique. Mais on fait quoi ? Et ce que je dis n'est pas propre à notre ordre, c'est à l'image de notre pays. On a des débats parfois affligeants et bah, rien. Et donc, il va peut-être falloir rentrer un tout petit peu en résistance parce que... et c'est peut-être aussi parce que la période est difficile. Il y a la guerre, il y a tout ce que vous voulez, l'inflation. Et bah, tu peux pas juste te lever le matin, facturer, rentrer chez toi le soir. Mais collectivement, nous, je le dis très, très gentiment, je dis... Nous ouvrons une porte, mais il faut que d'autres viennent parce que c'est un mandat qui est très court et après on retourne dans nos cabinets. Et si t'es pas content, fais mieux, mais engage-toi.
Vous parlez beaucoup de crise d'engagement et j'ai pas le recul sociologique pour pouvoir me prononcer sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une crise d'engagement. Non, mais politique, c'est sûr. Dans les votes, il y a une crise d'engagement qui est énorme. Aujourd'hui, on enregistre, on est en avril 2023. J'ai l'impression que ça fait des mois que la France est un peu sous grosse tension avec les manifestations contre la réforme des retraites, qui d'ailleurs n'ont pas cessé, bien que le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé. Donc, je veux dire, un engagement, en tout cas, de la société, moi, j'en vois un. Et là, je vous fais mon cheminement pendant que vous parlez et mon cheminement de pensée. Et j'étais en train de me demander si, d'une certaine manière, là, vous avez parlé de résistance, si cette résistance, c'est pas une résistance qui prend d'autres formes. Mais je vous rejoins, et c'est la raison pour laquelle je fais ces interviews via Fleur d'Avocat, parce que moi, je crois profondément en le fait que le vote est important et que c'est pas parce qu'on est déçu de ces élus qu'il faut arrêter de voter. Bien au contraire, mais je me demande s'il n'y a pas une forme d'engagement en creux qui se fait sous une autre forme dans les sites de dénonciation, les comptes de dénonciation, dans les démissions de la collaboration, dans le désintérêt de la collaboration d'ailleurs aussi, et dans... Voilà, d'une certaine manière, c'est, ouais, moi je vois ça comme une forme de résistance, c'est-à-dire de dire, ben, du coup, à mon niveau, voilà comment, et finalement, ça a un impact systémique, parce que finalement, ça crée des difficultés, ça crée des tensions sur le marché, du recrutement, de ceci, de cela, qui impacte les cabinets là où ça les fait mal, c'est-à-dire dans leur capacité à absorber leur charge de travail, dans leur capacité à répondre aux questions de leurs clients, dans leur capacité à tout simplement développer leur chiffre d'affaires. Ça leur coûte cher en recrutement, en chasseur de tête, ça leur coûte cher en tout ça. Et finalement, on voit des cabinets qui bougent sur les sujets du bien-être au travail. Et personnellement, je pense que c'est surtout une conséquence pragmatique économique, quoi. Avant tout, avant d'être un sujet de pure vertu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'engagement, ou est-ce que d'une certaine manière, l'engagement se fait autrement, et il se fait... Il ne se fait pas par le politique. Et donc, la question, c'est de ramener du politique. Et c'est là où je trouve, effectivement, qu'il y a des propositions intéressantes dans votre mandat autour de ça, c'est-à-dire s'inspirer du modèle des assises en proposant, en désignant des personnes qui, ensuite, sont libres d'accepter ou pas, mais de siéger, enfin, de venir, d'assister au conseil. Vous avez plusieurs propositions qui vont dans ce sens-là pour essayer de faire en sorte qu'il y ait de... Plus de dialogue, plus de points d'achoppement, quoi, plus d'accroche, plus de prise entre les justiciables, entre guillemets, et leur ordre.
Alors c'était je sais pas si c'était une question, mais je partage votre analyse, mais qui est à un moment, d'où mon cheminement personnel, qui est de dire oui, c'est une forme d'engagement de faire le tweet, mais faut pas chasser en meute non plus. C'est-à-dire que c'est tellement facile de le faire de manière négative et de hurler avec les loups comme on l'a fait, comme peut-être j'ai pu le faire avant. Et c'est la raison pour laquelle je vous avais dit, vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, il y a 3 ans, je te dis, c'est mort, la machine est terminée, les gens veulent plus, ça les intéresse plus. Mais ce que je vous avais dit en guise d'introduction, avec une certaine forme de tristesse, c'est dommage. Comment on rétablit un message positif? Il m'a fallu longtemps pour arriver là et de se dire d'abord ça ne peut être que temporaire. Les élus ont vocation à faire de la politique, mais j'aime pas ce mot politique au sens, pourquoi je vous dis ça, je suis pas membre d'un parti politique, je suis un avocat qui m'engage et qui retournera dans son cabinet. Ça veut pas dire que c'est pas de la politique, mais parce qu'on a tendance à dire que c'est une politique politicienne ou et donc peut-être pour les plus jeunes c'est moins noble. C'est comment finalement on ouvre une porte et c'est aussi un engagement citoyen. C'est de se dire à d'autres, t'es pas content, t'as pas voulu et inverser la tendance, parce que t'as pas voulu siéger, c'est ton droit. Mais pourquoi tu vas pleurer après? T'es pas content de la décision? T'es venu à la convocation? Non. Donc on réinverse les choses. C'est faut être courageux aussi pour le faire et en plus, on est en campagne, on ne devrait pas dire ça et disputer les gens qui vont voter pour nous. Mais oui.
Non, mais c'est une interpellation sur la saisine par les personnes de leur, des moyens qui sont mis à leur disposition pour qu'ils puissent potentiellement infléchir à une politique, contribuer à une politique. Et je vous rejoins là-dessus. Vous avez dit à plusieurs reprises, et puis ensuite on va arrêter là cet échange, mais vous avez dit à plusieurs reprises que vous, voilà, vous vous présentez avec le concours des électeurs, vous êtes bâtonnat, et puis ensuite vous redevenez un avocat qui retourne dans son cabinet et qui refait son métier d'avocat. Qu'est-ce que vous mettez autour de ça, cette importance de vous dire bah, c'est une parenthèse et puis ensuite je retourne dans mon cabinet.
Je crois que c'est une certaine forme de liberté. Être libre aussi, c'est de se dire « Ah, je vais... » Parce que dans les critiques aussi parfois de l'institution, on peut dire « Ah, mais lui, il fait ça parce qu'après il veut faire ci, il veut faire ça. » Et donc avoir un plan de carrière. Nous, on n'en a aucun, si ce n'est retourner dans nos cabinets et travailler. Ce qui veut dire, mais aussi, notre boussole, c'est les 34 000. Et après, bah, quand ça sera fini, ça sera fini. Et je trouve ça, c'est très important, c'est la notion de l'engagement. Quand tu y es vraiment, et quand c'est fini, il faut passer à autre chose. Et parfois, on a tendance à vouloir s'accrocher, à rester dans la machine, et ça, j'y crois pas. Et je crois aussi à titre personnel, parce que je voudrais aussi dire une chose, tu ne t'engages pas s'il n'y a pas un alignement de planète et t'as pas l'accord. Moi, j'ai l'accord de ma femme, j'ai l'accord de ma sœur et associée. Je ne l'aurais pas fait si j'avais pas leur accord. Parce que c'est très dur pour les familles, c'est très dur pour les organismes, c'est très dur pour tout le monde. Et ça ne peut marcher que si ça devient temporaire. Et donc, c'est remettre des avocats et des avocates dans la machine, donc tel que ça l'était à l'heure où on perd nos aînés, je veux pas citer de nom, mais des gens qui sont décédés, qui étaient dans la machine, et que je dis à des plus jeunes, mais tu sais, il y avait telle personne à telle période, c'est à ton tour d'y aller. Et on s'en est rendu compte. Je vais avoir 46 ans, qu'il y a une génération qui est en train de partir et qu'on se retrouve en première ligne et que notre travail, c'est de peut-être d'ouvrir cette porte-là. Mais on nous fera confiance, on ne croira que si c'est temporaire. Et donc, d'être pas un professionnel de la chose. Donc, j'ai l'accord de ma sœur pour tout. Après, je retourne dans le cabinet parce que j'ai complètement conscience que ça prendra énormément de temps, mais c'est ça qui est fondamental.
Non, mais c'est vrai que c'est le paradoxe, c'est-à-dire que à la fois vous êtes tous les deux du Sérail. Vanessa, elle a fait la conférence, elle a été collaboratrice de quelqu'un qui est devenu bâtonnier et qui a été membre du Conseil de l'Ordre aussi. Et d'ailleurs, elle a siégé comme membre. Enfin, je veux dire, elle s'est présentée en binôme à ses côtés. Elle a été élue et donc maintenant il y a quand même une forme de d'être du Sérail. Et vous, c'est pareil d'une certaine façon. C'est-à-dire, vous avez pas fait l'étape de la conférence, mais vous êtes passé par l'UJA. À SOS Collaboration, et puis ensuite vous avez été membre du Conseil de l'Ordre, et puis aujourd'hui il y a ce désir d'eux. Après, est-ce que c'est une histoire de sérail ou est-ce que c'est aussi parce que l'engagement amène l'engagement ? Enfin, je veux dire, c'est facile de parler d'entre-soi, alors que c'est aussi potentiellement facile d'intégrer l'entre-soi en s'engageant aussi, et donc ça devient un autre monde. Et d'ailleurs, peut-être que c'est juste une erreur de parler de monde qui se sépare et que c'est juste des gens qui s'engagent et qui, du coup, se connaissent. Enfin, je veux dire, après, c'est le concept même des communautés, quoi, on va dire. Mais, et qui dit communauté ne veut pas dire communautaire non plus. Mais après, c'est... Voilà,
Je suis d'accord avec
ce que vous voyez ce que je veux dire ?
Mais, attendez, est-ce que Vanessa, comme moi, on peut faire partie du système ? Oui, si vous l'entendez ainsi, je peux pas vous dire le contraire. Je vais vous répondre quand même à titre personnel que je vous ai dit que ça serait pas arrivé dans ma vie, je me serais pas engagé, donc j'avais pas un plan de carrière. Que je connaisse les autres candidats, oui, on se connaît tous, c'est évident. Après, est-ce qu'il faudrait ne jamais avoir été à l'ordre ou ne connaître la machine à l'intérieur, et quand bien même peut-être qu'on a été, on la connaît pas forcément très bien. Pour améliorer les choses, j'en suis pas convaincu pour autant. Parce que c'est assez facile, dans ces cas-là, d'avoir un message négatif. Ouais, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Moi, je suis monsieur propre et je vais y arriver, ou madame propre. Je ne suis pas forcément convaincu, à tel point que vous avez vu dans notre cheminement personnel, ne serait-ce que pour les questions de harcèlement, qui c'est des questions où les commissions sont entre guillemets nées pendant notre mandat et qu'on a évolué sur la chose. J'aurais jamais eu ce ou alors on fait de la démagogie.
Ce temps de maturité, ouais.
Et où on fait de la démagogie pure et simple. Moi, je suis pas du sérail, je connais pas. Je le fais pas.
Et donc, je n'aurais pas de conflit d'intérêts. Donc ceci. Non, mais je disais ça vraiment sans critique parce que dans l'absolu, je trouve que c'est. Il y a aussi une forme de logique au fait que, d'une certaine manière, par une occasion, on touche à l'engagement et que ça donne envie de s'engager plus. Enfin, je veux dire, en fait, c'est. Je trouve ça extrêmement logique de s'engager à l'UJA, de se sentir utile et de se dire ah ben je peux aussi être utile comme membre du Conseil de l'Ordre parce que c'est une autre manière d'être utile à mes confrères de façon bénévole et que. Et que après ça, on se disait bah peut-être que je peux aussi être utile en devenant bâtonnier et que voilà et que donc l'engagement crée l'engagement. Mais comme le business crée d'autres idées de business c'est le concept même d'une opportunité qui ouvre d'autres portes dans une continuité logique de création d'un désir et tout. Donc je disais vraiment pas ça en critique et je trouve qu'au contraire ça crée finalement une discussion intéressante sur cette question-là de de la légitimité, de quid de l'entre-soi, de mais du coup qu'est-ce qui fait qu'on pourrait contourner, est-ce que le fait d'être vierge de tout précédent engagement ordinal ou associatif dans la profession serait mieux ou pas, enfin voilà, c'est en tout cas c'est intéressant qu'on aborde ces questions et comme ça fait déjà un moment qu'on échange, ce que je vous propose et qu'on a déjà parlé de comment vous vous voyez vieillir entre guillemets, c'est déjà de me dire quel est votre principe déontologique préféré ?
L'humanité. mais puisque vous me parlez de déontologie, je dirais que notre serment, il manque deux notions à notre serment, qui sont le courage et l'humilité. Être avocat, il faut être courageux. C'est pas simple de dire non. Et pas même parfois, je vous dis pas oui à tout ce que vous me dites. Il faut avoir ce courage-là. Et surtout, il faut rester humble. Je me rends compte que les plus grands était d'une simplicité absolue et que on est dans une période où on peut tout gagner et tout perdre dans la même journée, dans la même seconde. Plus d'ailleurs ça avance dans le cadre de la campagne, plus nous sommes entre guillemets sereins ou calmes parce que de toute manière on finira tous par mourir et donc il faut faire ça justement et faire quelque chose qui essaye de nous grandir. C'est pas simple, hein, mais c'est aussi ce pourquoi, avec Vanessa, parce que c'est avec Vanessa, on a cette foi.
Quelle est votre dernière joie ?
Ma dernière joie, c'est les notes de mon fils, ses épreuves de bac.
Qui étaient bonnes, donc.
Je n'en dis pas plus, il sera pas content.
Alors, on le félicite. Et dernière question, qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Excusez-moi, vous m'avez un tout petit peu séché avec votre dernière question, sous ma robe d'avocat.
Ben, sauf si vous avez une autre robe dont vous voulez
nous parler. Non, j'ai quelques gris-gris qui sont dans ma poche, si c'est pour répondre à votre question, dont je ne me sépare pas, qui sont un cadeau de... c'est ma femme qui me les a donnés. Et effectivement, avant une audience... De toute manière, je vais vous dire, quel que soit le... Il n'y a pas de petit dossier. Il n'y a pas de petite interview, il n'y a pas de petit on doit se livrer vraiment, et il y a toujours cette appréhension que j'ai eue avant de vous rencontrer, en disant mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, et que ce doute permanent, et il y a la magie de l'instant qui fait que tu réponds à la question, même si elle était surprenante de prime abord.
Merci beaucoup pour cet échange, Pierre-Offen.
Merci à vous.
Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine !